Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 19h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Dans un instant, les débats de Punchline, mais tout de suite, c'est le journal avec Alexandre Lemaire. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Nouveau coup de pouce du gouvernement contre la flambée à la pompe. Mesure ciblée cette fois, c'est une hausse des indemnités kilométriques.
Emmanuel Macron vise la droite et l'extrême droite pendant son déplacement en Haute-Vienne. Il défend le maintien des services publics et le devoir de mémoire face à la barbarie. Paris et Berlin alignés sur un appel à la désescalade en Ukraine, mais en cas d'agression russe, la riposte sera là, prévient Emmanuel Macron. Elle a été pensée pour vous simplifier la vie. SNCF Connect a été lancée aujourd'hui. Une seule appli, enfin, pour prendre le train.
La tendance météo avec vous, Marlène Duret. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Laurence et bonsoir à tous. Plein soleil demain en montagne et sur le quart sud-est. Et puis une dominante de gris dans le nord et autour de la vallée de la Garonne. Mais on n'exclut pas une belle surprise avec peut-être une éclaircie qui pourrait percer de façon aléatoire. On verra ça à la fin du journal. Europe 1.
Jean Castex a donc annoncé cet après-midi une hausse du barème de l'indemnité kilométrique pour compenser un peu l'envolée des prix du carburant.
C'est le nouveau coup de pouce du gouvernement. Le barème de l'indemnité kilométrique est relevé de 10%. C'est une mesure ciblée. Elle concerne 2,5 millions de foyers, Carole Ferry.
Oui, les 2,5 millions de Français qui déclarent leurs revenus aux frais réels et qui sont imposables. Car vous avez des contribuables qui déclarent leurs revenus aux frais réels, mais qui ne sont pas imposables. Et eux n'auront le droit à rien, car ce n'est pas un crédit d'impôt, mais bien une réduction d'impôt. Une réduction de 150 euros par foyer en moyenne, qui va représenter un manque à gagner de 400 millions d'euros pour l'État. Une mesure qui a vocation également à inspirer les entreprises, selon le Premier ministre Jean Castex.
Au-delà des bénéfices immédiats, cette revalorisation a vocation également à servir de référence et donc potentiellement à se répercuter sur les indemnités kilométriques directement versées par les employeurs à leurs salariés qui utilisent leur véhicule personnel, indemnités qui sont par ailleurs, je vous le rappelle, défiscalisées.
Alors pour les entreprises, la hausse peut être revalorisée dès le mois prochain. Pour les contribuables, le gain se fera lors de la prochaine déclaration de revenus, en avril, sur les kilomètres parcourus durant l'année 2021.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Alors voyons comment réagissent les automobilistes. Avec vous Stéphane Burgat, vous êtes à une pompe à essence de la zone commerciale de la Valentine à Marseille. Et cette annonce, Stéphane, eh bien, elle fait des heureux.
Et oui, pour les gros rouleurs, hein, ceux qui rentrent dans les cases, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Oui, exemple avec Sylvie, elle habite dans le Var. Elle vient travailler à Marseille, 50 km aller-retour, 5 fois par semaine à bord d'un vieux véhicule essence. Et là, concernant cette revalorisation, sera forcément intéressante.
Ben, ça va être génial parce que là, moi, je dépense énormément d'argent en carburant, d'autant plus que ma voiture n'est pas toute jeune, donc c'est compliqué. Là, je suis à 220 euros d'essence par mois parce que ça a beaucoup augmenté et qu'en plus, bon, la mienne, elle consomme un peu plus forcément. Donc c'est très compliqué, on le ressent nettement sur le budget.
Voilà, et vu que cette mesure ne va concerner que 2,5 millions de foyers en conséquence, eh bien ça fait grincer des dents également, ceux qui espéraient plutôt un abaissement de la taxation de l'État sur les carburants. C'est le cas de Thierry, qui est agent immobilier.
Oui, mais bon, qui va la toucher? C'est bien pour ceux qui font les frais réels, mais bon, pour ceux qui ne le font pas, par contre, on va continuer à payer un maximum. Moi, je me suis lancé dans un nouveau métier il y a 6 mois, et aujourd'hui, j'ai doublé mes frais de carburant. Donc, ça va peut-être m'empêcher de continuer à le faire. C'est aussi simple que ça.
Voilà, tout simplement, pour beaucoup, cette mesure sera loin de régler le problème de l'impact du prix de l'essence sur le pouvoir d'achat des Français.
Stéphane Burgat, en direct de Marseille pour Europe 1.
Emmanuel Macron vient, lui, de quitter la Haute-Vienne après un après-midi truffé de pics distribués à la droite.
Et pour conclure, 2 jours d'immersion dans le Limousin, le chef de l'État a d'abord défendu les services publics, puis le devoir de mémoire sur les lieux du massacre d'Oradour-sur-Glane. Jacques Serret, vous avez suivi Emmanuel Macron pour Europe 1. Sans jamais les nommer, Jacques, il a très clairement ciblé la droite et l'extrême droite.
Oui, depuis la Haute-Vienne, Emmanuel Macron envoie des cartes postales à ses adversaires. À Saint-Léonard-de-Nobla, devant des agents de la fonction publique,
on doit remettre du service sur le territoire parce que c'est meilleur pour tout le monde.
Il se fait le défenseur des fonctionnaires et la missive est adressée à Valérie Pécresse qui veut supprimer plus de 150 000 postes.
La clé est aussi de pouvoir remettre des services au public partout sur notre territoire. Qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, des services administratifs, etc.
Quelques instants plus tard, changement de cadre, le ton se fait plus solennel. Le président des corps, Robert Hebras, 96 ans, dernier survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane, commis par les nazis le 10 juin 1944.
Ceux qui nous font courir le risque de l'oubli nous engagent sur un seul chemin, celui qui nous ferait prendre le risque de répéter cette histoire. Je veux ici vous dire que le combat que vous avez mené, c'est celui que nous allons poursuivre.
Une déclaration pleine de sous-entendus dont il sait qu'elle sera perçue comme une attaque contre Éric Zemmour et Marine Le Pen. S'il n'est toujours pas officiellement candidat, Emmanuel Macron prend toute sa part dans cette campagne.
Jacques Serret en Haute-Vienne pour Europe 1.
Et au même moment, Valérie Pécresse a mis l'accent sur la justice lors d'un déplacement de campagne à Tours.
La justice, maillon faible de la sécurité dans notre pays pour la candidate Les Républicains. Elle promet 16 000 recrutements. Alexandre Chauveau, vous avez suivi Valérie Pécresse pour Europe 1. La candidate promet donc un plan hors sec, c'est ce qu'elle dit pour la justice.
Oui, Valérie Pécresse veut porter le budget de la justice à 9 milliards d'euros, soit 50% de budget en plus sur 5 ans. La candidate parle de moyens exceptionnel, recrutement de 6000 juges et greffiers et de 2000 procureurs, ouverture de centres de détention provisoires pour faire exécuter les courtes peines et création de 20 000 nouvelles places de prison. Enfin, peine plancher pour les délinquants et suppression des allocations familiales pour leurs familles.
Je veux faire de ma présidence celle de l'impunité zéro. Et pour ce faire, je mettrai en place un plan de sauvetage et de modernisation de la justice. Un plan sur 5 ans qui redonnera les moyens à l'autorité judiciaire de juger vite et bien.
Juger vite et bien, Valérie Pécresse veut ainsi réduire les délais de jugement des délits du quotidien à moins de 6 mois et généraliser les comparutions immédiates pour les flagrants délits, autant de mesures adressées à un électorat en attente de fermeté sur ces questions et qui constituent pour la candidate un angle d'attaque supplémentaire envers Emmanuel Macron.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Pfizer-BioNTech lance les essais cliniques de son vaccin anti-Omicron. La formule va être testée sur des volontaires de moins de 55 ans. Et puis le gouvernement veut faire décoller la vaccination chez les enfants. Pour vacciner les 5-11 ans, l'accord d'un seul parent redevient suffisant. Seuls 200 000 enfants sont vaccinés à ce stade sur les 5 millions de cette tranche d'âge.
En pleine crise ukrainienne, Emmanuel Macron veut afficher son unité avec le chancelier allemand Olaf Scholz.
Le président est ce soir à Berlin, c'est son premier tête-à-tête avec le nouveau chancelier. L'Ukraine est en tête des conversations. Les Européens peinent dans ce dossier à parler d'une seule voix. Mais ce soir, le couple franco-allemand affiche son unité, William Molinier, pour appeler à la désescalade.
Oui, il y a quelques minutes, les deux chefs de l'État ont tenu une conférence de presse commune. Le couple franco-allemand qui entend remettre l'Europe au centre du bras de fer entre Joe Biden et Vladimir Poutine avec un objectif, la désescalade, c'est ce qu'a affirmé Emmanuel Macron depuis Berlin.
Comme tu l'as parfaitement dit, cher Olaf, nous appelons l'un et l'autre avec beaucoup de force à une désescalade des tensions par un dialogue exigeant avec la Russie et pour travailler à une stabilité par une solution politique sur la question du Donbass et la situation en Ukraine.
Baisse d'intensité, mais aussi fermeté, et c'est un des enjeux de cet entretien. Les deux hommes doivent répondre à une question en apparence simple, mais lourde de conséquences. Jusqu'où l'Europe est-elle prête à aller si les Russes envahissent l'Ukraine ? Emmanuel Macron entrevoit une riposte.
S'il devait y avoir une agression, la riposte sera là, et le coût sera très élevé.
Demain à midi, les diplomates français, allemands, ukrainiens et russes vont se retrouver à Paris pour amorcer cette discussion. Reste à savoir si les Russes sont prêts à jouer cette carte de la désescalade. En tout cas, déjà une avancée, un entretien téléphonique est prévu ce vendredi entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine.
William Molinier, la Russie a lancé aujourd'hui des manœuvres militaires aux portes de l'Ukraine. 6000 hommes, des avions de chasse et des bombardiers. Un Français lourdement condamné en Iran, Benjamin Brière, écope de 8 ans de prison pour espionnage. Il est déjà détenu depuis près de 2 ans. Benjamin Brière avait été arrêté pour des photos interdites prises avec un drone de tourisme dans un parc naturel iranien. Cette condamnation est inacceptable. Rien ne permet de l'étayer, réagit le Quai d'Orsay.
Restez avec nous. Dans un instant, on découvre SNCF Connect, la nouvelle appli unique pour prendre le train. Et puis Europe 1, partenaire de la cérémonie des Césars. C'est du cinéma dont on va parler tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans le journal de 19h avec Alexandre Lemaire. Alexandre, oui, SNCF, eh ben c'est fini. La nouvelle appli s'appelle SNCF Connect.
Et cette fois, c'est une appli unique. Terminée la forêt d'applications à télécharger sur votre smartphone, qu'il s'agisse d'infotrafic, des horaires ou d'un achat de billets, Aurélien Fleureau. À partir d'aujourd'hui, tout se passe donc sur SNCF Connect.
Oui, l'objectif affiché est plutôt réussi, c'est de simplifier les choses, avoir toutes les informations au même endroit, pouvoir réaliser toutes les opérations sans changer trois fois d'application ou de site, que l'on achète un billet TGV ou TER, que l'on souhaite modifier ou se faire rembourser un trajet par exemple. Le principal changement, quand vous arrivez sur SNCF Connect, vous tapez votre demande comme sur un moteur de recherche avec quelques mots-clés et votre identifiant enregistré, ça simplifie encore plus les choses. Eh bien, l'algorithme peut vous apporter la réponse la plus pertinente, explique Anne Pruvot, directrice générale de SNCF Connect & Tech.
On est sorti du formulaire stéréotypé de quelle origine, quelle destination, quelle date, quelle heure, qui suis-je. La première chose que l'on vous demande, c'est que voulez-vous faire ? Est-ce que vous voulez aller quelque part ? Est-ce que vous voulez de l'aide sur quelque chose ? C'est là aussi où on met en œuvre l'intelligence artificielle.
La mise à jour est donc disponible depuis ce matin. Elle se fait soit automatiquement, soit c'est à vous de la lancer vous-même. Vous découvrirez un design bleu nuit très différent du rouge de l'orange habituel. Et avec ce nouveau service numérique, la SNCF espère attirer encore plus de voyageurs dans ses trains et faire passer le chiffre d'affaires de 4,3 milliards à 6,5 milliards d'euros d'ici 2025.
Aurélien Fleureau, spécialiste transport d'Europe 1.
Et puis c'est une bonne nouvelle. Europe 1 est partenaire de la cérémonie des Césars pour sa 47e édition le 25 février prochain.
C'est un événement à suivre en direct et en clair sur Canal+, mais aussi, et c'est une nouveauté, en direct intégral sur Europe 1. La liste des nominations sera dévoilée demain matin, mais l'Académie des Césars a révélé aujourd'hui le nom de la présidente de la cérémonie. Il s'agit de la réalisatrice Danielle Thompson, scénariste de grands succès comme La Boum ou La Grande Vadrouille.
Une cérémonie que j'ai toujours beaucoup aimée, qui j'espère va de nouveau faire rêver beaucoup de générations de comédiens, parce que c'est ça que je trouve magnifique dans ce principe des Césars. On entend souvent des jeunes comédiens ou des vieux comédiens d'ailleurs qui vous disent qu'ils ont regardé cette cérémonie quand ils étaient enfants et que ça leur donnait envie de faire du cinéma.
L'Académie rendra hommage aux disparus évidemment, Jean-Paul Belmondo, Gaspard Ulliel.
Bien sûr, je sais qu'il y aura forcément des hommages pour ces merveilleux comédiens qui représente d'ailleurs le cinéma français. C'est ça qui est formidable, de rappeler aux gens à quel point, finalement, en France, on fait des beaux films.
Danielle Thompson qui présidera donc le 25 février prochain la 47e cérémonie des Césars, événement en partenariat avec Europe 1.
Fin de l'aventure australienne pour Gaël Monfils, éliminé de l'Open de Melbourne en quart de finale.
Le 20e joueur mondial a livré une bataille en 5-7 tout de même avant de s'incliner face au numéro 7. L'Italien Matteo Berrettini rejoint Rafael Nadal en demi-finale. À 35 ans, Gaël Monfils, lui, rêve toujours de gagner un grand chelem, mais cette fois encore, la marche était trop haute.
À l'arrivée, encore une fois, je suis moins fort tennistiquement, physiquement, mentalement. Pourtant, je suis bien. J'ai été moins fort encore une fois et je le suis depuis ça fait quoi, 18 ans que je suis là, je suis moins fort. Mais je dirais même pas que j'apprends, c'est j'encaisse. J'encaisse et je sens qu'une fois, je vais y arriver, j'espère. Quoi. Enfin, du moins, c'est ma volonté, peut-être que je n'y arriverai jamais. Et en plus, quand je te dis, je veux que ça clique une fois, attends, on parle d'un truc, c'est gagner un quart de finale. Quoi. Donc après, il faut gagner une demi. Demi, j'en ai joué deux dans ma vie. Après, il faut jouer une finale, j'en ai jamais joué. Donc t'imagines, tu commences à monter la montagne, mais c'est mon kiff, c'est mon challenge personnel.
Gaël Monfils, toujours plein d'espoir avec Axel May.
Allez, le temps pour demain, Marlène Duré. Marlène, ce sera gris sur les trois quarts du pays.
Et oui. Et oui, Laurence, le gris est revenu à la charge aujourd'hui. Et ça va continuer demain. Alors, hormis en montagne, donc la grisaille sera présente dès le matin sur la moitié nord du pays et dans les plaines du sud-ouest. Les brouillards givrants, seront de la partie là où les températures seront bien négatives. Alors, on prévoit par exemple moins 7 degrés à Murat, dans le Cantal, moins 5 à Échirolles, en Isère, moins 4 à Limoges, Mulhouse, Nevers, Lyon et Dijon, moins 2 au Mans, à Nantes, moins 1 à Toulouse, à Montpellier et à Marseille. Et puis après, un début de journée nuageux sur le pourtour méditerranéen, le soleil reprendra le dessus. Plein soleil demain en Auvergne, mais aussi du Limousin à l'Aveyron, sur les Pyrénées, enfin le Rouergue si on veut être un peu plus précis, sur les Pyrénées et leurs piémonts, sur les sommets des Vosges et du Jura. Ailleurs, ce sera ou du ciel bleu ou du ciel gris, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Même si le gris semble s'imposer, les chances de voir une belle éclaircie se réduiront à mesure que l'on ira vers la Normandie, l'Île-de-France et les frontières du Nord. Et les températures au plus chaud de la journée, eh bien, elles seront comprises entre 2 degrés à Bourges ou Nancy et 16 à Perpignan, avec 4 à Rennes, 5 à Montauban, 6 à Paris ou encore 8 degrés à Annecy.
Merci beaucoup Marlène pour ces températures. Alexandre, on vous retrouve à 20h sur Europe pour les infos.
À 20h.
Allez, tout de suite, ce sont les débats de Punchline. On reparlera du coup de pouce de Jean Castex pour les automobilistes. On va voir si le compte y est. À tout de suite.
18h-20h sur Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.